Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'à 5h du matin en direct sur RMC. Vous le savez, toutes les nuits américaines, on vous les fait vivre avec Maxime Chano, avec Walid Acherchour. Les États-Unis qui régalent dans cette première période, 3-0 face au Paraguay. Les États-Unis étaient attendus. Ils brillent, messieurs, et surtout, les joueurs phares, les joueurs majeurs sont au rendez-vous.
Quel mi-temps de la part des Américains. Honnêtement, je ne les attendais pas forcément à ce niveau. Alors, bien aidés par des Paraguayens qui sont absolument étouffés, justement, par le contre-pressing américain. Et puis derrière, évidemment, tu as la qualité individuelle de tous ces joueurs, et en particulier Pulisic, hein, qui a fait une première mi-temps incroyable. McKennie, le joueur de la Juventus Turin. Et puis, Walid l'a très justement dit, un Balogun en feu, hein, qui est super intéressant.
Doublé pour Balogun.
En profondeur, et qui vraiment fait très, très mal à cette défense paraguayenne, qui est, ma foi, un peu lente malgré tout.
Hein. On rappelle, premier but, c'est un CSC, et Balogun par deux. Deux fois. C'est vrai qu'il était attendu. Balogun, il est dans la lignée de ce qu'il a fait avec Monaco. Quand il s'est réveillé avec Monaco cette saison, eh bien, il a été évidemment le meilleur joueur de Monaco sur la fin de saison. Et là,
on revoit le Balogun qu'on avait vu à Reims, qui avait mis ses 21 pions lors de son arrivée en prêt d'Arsenal. En deuxième partie de saison, il a beaucoup, beaucoup d'images avec le but contre Marseille, notamment magnifique. Même son match contre Lyon au Groupama. Et là, sur le premier match de Coupe du Monde, à la maison, on l'attendait au tournant. Il met doublé avec un but hors jeu refusé, faut pas l'oublier. Il est même sur le premier but, il est dans le coup, parce que s'il n'y a pas le but contre son camp, il est derrière pour mettre le but. C'est un Balogun virevoltant, avec énormément d'appels. C'est un bourbier pour les défenseurs, et on l'a encore vu. Et puis il a cette marge de progression sur l'efficacité, et encore plus quand il est efficace comme sur cette première mi-temps. Bah, ça donne un doublé au tableau d'affichage, mais c'est dans la lignée de ce que réalisent les Américains, moi, franchement. Alors, bien évidemment, il y en a qui mettront l'accent sur la nullité peut-être du Paraguay, mais moi je pense qu'il les étouffe depuis le début de la rencontre. C'est pas évident de rentrer dans une compétition comme ça à la maison, à Los Angeles, où tout le monde les attend au tournant, parce qu'ils sont un peu dans l'anonymat de cette série entre les Spurs et les Knicks, et ils font tout pour que les supporters rentrent dans le train de la team USA sur cette Coupe du Monde. Bravo et grand Pulisic, grand McKennie,
les dépassements de fonction, ouais, ces deux joueurs, ouais, hein, ouais, les infiltrations,
c'est
le voilà.
C'est athlétique, c'est technique, c'est mobile, et je suis content parce que ça récompense le football sur cette première mi-temps, comme les Coréens hier, comme le Mexique sur le premier match. Moi j'aime bien quand le football est récompensé.
Ah, c'est huilé, hein. Moi j'ai critiqué Pochettino, hein, sur les matchs amicaux que j'avais vu des Américains, mais là honnêtement, cette défense à 3 avec un Sergino Dest en piston droit aussi qui est intéressant, et puis surtout le dépassement de fonction, on l'a dit là, de McKennie et de Pulisic, qui pour moi font vraiment la différence, qui embête justement les milieux de terrain américains. Et puis évidemment Balogun, hein. Balogun, là on l'a dit, mais on le répète encore, là ce qu'il nous a montré sur cette première mi-temps, c'est digne du très 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 haut niveau.
Et son deuxième but est magnifique, messieurs. C'était le
là,
troisième
il y a 3, mais ça peut faire 5, hein.
Ah oui, parce qu'il y a eu notamment le hors-jeu, mais il y a eu poteau, enfin vraiment,
il y a des grosses occasions.
Les Américains sont largement dominateurs. Les États-Unis donc troisième pays organisateur à être entré dans cette compétition. Le Mexique l'avait fait hier avec ce 2-0 face à l'Afrique du Sud, et aujourd'hui le premier match, c'était Canada-Bosnie. Messieurs, le match avait lieu à Toronto, et les Bosniens ont ouvert le score avec Lukic. C'était quand même un braquage parce que le Canada était largement dominateur. Ils ont finalement égalisé par Larine à la 78e minute. Le Canada qui inscrit son premier point dans l'histoire de la Coupe du Monde après 7 matchs. C'est quand même pas très cher payé pour les Canadiens, parce qu'ils étaient vraiment dominateurs et ils font que match nul. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match?
Écoute, moi j'ai trouvé que ça a été un match plaisant, tu vois, si je compare par rapport à la journée qu'on a eue hier avec l'Afrique du Sud, même la Corée du Sud. Moi j'ai vraiment aimé beaucoup ce match. Alors évidemment, les Bosniens sont bien rentrés dans le match. Les 20 premières minutes, j'ai presque eu peur pour les Canadiens. Et puis derrière, je pense que le but bosnien qui a permis justement aux Canadiens de se réveiller. Moi j'ai surtout beaucoup aimé le rythme de la deuxième mi-temps. Toi, ça, je te dis encore une fois, mais ça a vraiment contrasté avec ce que j'ai vu hier. Et puis surtout les Canadiens qui ont su répondre à l'impact physique des Bosniens, qu'on connaît un petit peu les qualités athlétiques de cette équipe. J'étais aussi surpris bien évidemment par la profondeur de banc, parce qu'on a parlé de Jonathan David, on a parlé du joueur du Villarreal qui est sorti,
Buchanan
aussi, ouais, sur le côté droit, ouais. Et puis derrière tu fais rentrer l'homonyme justement de Jonathan David, qui est bien meilleur sur ce match-là,
Promise David.
Et puis Kyle Larin, que j'ai bien connu, l'ancien joueur d'Orlando, et qui est passé notamment par Besiktas, qui a fait une très très bonne rentrée. Je trouve les Canadiens ont été un petit peu brouillons, hein, pendant ce match match-là. Ils ont un petit peu manqué justement de mordant dans le dernier geste défensif. Et on sent que l'entraîneur Jesse Marsh était même agacé par son attaque, hein, parce qu'il a fait sortir les trois justement pour faire rentrer trois nouveaux attaquants. Et ça a vraiment changé un peu la donne. Honnêtement, je trouve que c'est pas vraiment très cher payé pour les Canadiens. En tout, je sais pas ce que t'en penses, Walid, mais sur ce que j'ai vu sur cette deuxième mi-temps, les Canadiens méritaient clairement
pour gagner ce match-là. Pour moi, le Canada mérite de gagner la rencontre. La Bosnie.
Il y a eu la balle de 2-0 quand
oui,
même.
Oui, ils ont la balle de 2-0, mais globalement, moi, je trouve que la Bosnie était très faible. Déjà, globalement, j'ai trouvé le match d'un niveau faible, mais en fait, cette faiblesse m'a rendu agréable le match, en fait. C'est-à-dire que c'était brouillon, mais il y avait des intentions de la part du Canada.
T'aimais les sauvetages sur la ligne,
ouais, voilà. En fait, il y avait un football très, très.
Moi, j'aimais le rythme.
Oui, il y avait un rythme.
Ils voulaient aller marquer.
Ouais, mais je trouve que c'était très décousu quand même.
Après, oui,
très
c'était
décousu.
Brouillon.
Non, mais c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde à 48. On est dedans. De toute façon, faut s'y adapter. Mais je trouve que il faut être conscient que le match était d'un niveau faible.
C'était pas un grand match.
Mais par contre, je trouve que le fait d'avoir des ratés, le fait d'avoir des espaces, en fait, m'a rendu un peu agréable le match. Et puis surtout, le Canada, avec l'ouverture du score de la Bosnie, vu qu'il méritait globalement sur la première mi-temps au moins d'être à égalité, et ben ils ont réussi à changer le match. Il y a des grosses occasions canadiennes, notamment par Jonathan David sur la première mi-temps et même sur la deuxième mi-temps, où il doit mieux faire. Mais c'est vrai que le Canada est mal payé. Et pour parler de Jonathan David très rapidement, parce que il faut le dire, moi je trouve que il n'a pas pris la responsabilité. C'est quand même un joueur de la Juventus, c'est quand même un joueur qui a un énorme statut, qui fait sa deuxième Coupe du Monde, où déjà en 2022 ça avait été très très compliqué. Pour moi, je le répète, mais Jonathan David est un joueur surcoté. Pour moi, Jonathan David a un plafond de verre, mais il ne mérite pas d'être titulaire à la Juventus. Et c'est un joueur qui, pour moi, physiquement, est trop en dessous du statut qu'il doit avoir. C'est pas un joueur sérieux. Pour moi, il est pas sérieux. Et bien évidemment qu'il a fait des belles choses en Ligue 1, mais on se rend compte que quand on veut une fiabilité pour Jonathan David dans les gros rendez-vous, notamment pour son pays et dans un gros club comme avec la Juventus, et ben on est déçu, ça le fait pas. Et moi je pense que même sur les prochains matchs, un Larine a gagné sa place et il mériterait d'être revu.
Après Kyle Larine, c'est un joueur d'expérience, je pense qu'il est intéressant justement par rapport à son profil du rentrer sur les 20-30 dernières minutes. Mais on parlait de l'homonyme justement de Jonathan David, la promesse David qui joue du côté de l'Union.
Mais lui aussi, il a été bien meilleur.
Pour moi, doit jouer à la place de Jonathan David, je suis d'accord avec toi. Et petit clin d'œil.
Il est trop lourd, David.
D'accord avec toi. Et petit clin d'œil pour notre Ligue 1, parce que ce fameux Ismaël Koné, l'ancien Marseillais, qui a fait une super saison du côté de la Serie A Sassuolo, qui est demandé d'ailleurs par les plus grands clubs européens de Serie A actuellement, a aussi fait un bon match, j'ai bien aimé.
Le Stakio aussi.
Qui joue à Los Angeles FC, qui a joué donc avec moi, qui est l'ancien du FC Porto. Alors, j'ai trouvé cette équipe cohérente, je suis d'accord avec toi, ça a été brouillon, c'est un premier match de Coupe du Monde, c'est toujours un petit peu surprenant, en tout cas, c'est pas facile pour certains joueurs justement de se mettre très vite au niveau, mais en règle générale, moi j'ai été agréablement surpris par ce Canada. C'est une équipe qu'on connaît pas forcément quand on est en Europe, moi je les connais évidemment par rapport à la MLS, énormément de joueurs qui ont joué, qui sont
derrière,
passés par la MLS. Évidemment,
le peu de munitions de la Bosnie, c'est pas normal d'avoir.
Oui, parce que les Bosniens qui étaient tellement bas, que c'était très compliqué de pouvoir les mettre en danger.
Moi, je m'attendais à plus fort. Je pensais véritablement que le Canada, en tout cas en termes d'efficacité.
Tu parles du Canada plus fort?
Plus fort, ouais.
Après, c'est un premier match, c'est ce que j'ai dit. Il y a certains joueurs, voilà. Ça,
quand
ça
tu vois le Mexique et les États-Unis, par exemple.
Ah, t'as préféré le Mexique?
Globalement, dans le jeu. Enfin, j'ai trouvé ça plus cohérent, j'ai trouvé ça plus.
Peut-être plus maîtrisé.
Techniquement plus maîtrisé, tu vois.
Je suis d'accord avec toi, c'est ça. Moi, j'ai aimé le rythme. Justement, parce que hier, les deux matchs, moi je me suis pas ennuyé sur les deux matchs, ça serait manquer de respect à tous les protagonistes.
Non, mais il y a ennuyé et trouver ça cohérent.
C'est vrai que le rythme était un peu moins élevé, c'est ce qui m'a fait peur justement sur ces premiers matchs de Coupe du Monde, d'avoir justement des équipes qui attendaient avec un rythme qui serait sûrement aussi un petit peu cassé par la pause fraîcheur, par le temps, par la fatigue, par le jet lag. Et c'est vrai que ce match contre le Canada, enfin entre le Canada et la Bosnie, moi ça m'a redonné un petit peu d'espoir en me disant voilà, on va quand même avoir du rythme sur les premiers matchs de compétition. Et je trouve encore une fois, je répète mon analyse, que pour moi, le Canada était mal payé contre la Bosnie en faisant match nul.
Un but partout, on rappelle, entre le Canada donc et la Bosnie. C'est vrai que le Canada a vraiment buté face aux Bosniens. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ils n'ont pas pu faire mieux que match nul. Valentin Jamin, ça va repartir entre les États-Unis et le Paraguay. Les États-Unis qui ont réalisé une mi-temps quasiment parfaite avec ce score de 3-0. Et les stars, mais enfin, c'est incroyable, il n'y a jamais eu autant de stars au mètre carré, parce que là, on a eu Leonardo DiCaprio également. On a des focus sur toutes les stars du monde entier présente pour ce match. On a Katy Perry qui a chanté aux côtés de Justin Trudeau, l'ancien Premier ministre du Canada. Pourquoi, les gars, on n'est pas à Los Angeles, quoi? Je comprends pas.
On est mieux à New York, crois-moi. On est bien mieux à New York. On est bien.
Il y a plus de stars à Los Angeles qu'à New York.
Nos stars, elles sont autour du bureau de RMC, regarde. Voilà.
Là, je suis impressionné quand même du parterre de stars.
J'ai l'impression que tu aurais aimé être américaine. T'es pas satisfaite des stars françaises, Karine, non?
Moi, j'aurais adoré être américaine. J'adore les burgers, j'adore les hot dogs, j'adore les pizzas.
Pas gros cliché.
Je suis très cliché, moi.
C'est très une gogo, toi. T'es une gogo.
Et ben alors là, tu sais, moi, je suis américaine à fond. Tous les clichés, ça me plaît.
Uniquement parce que tu manges des burgers.
Pas que, mais j'adore les États-Unis. Écoute, les gens.
T'achètes les gourdes là de 4 litres.
Ouais.
Oui,
gigantesque, les gens ont tout ça dans la rue, là, les gourdes, les gens chaussons.
Ah bah, je peux te dire qu'on boit, hein, là, enfin, on boit de l'eau.
Ouais, faut préciser.
Ça ne regarde pas, Karen. Tu fais ce que tu veux. Tant qu'à l'antenne, ça se voit pas. Sur 2-3.
On doute.
Sur 2-3 questions, des fois, on doute un peu, mais.
Non, mais il fait tellement lourd et chaud que je peux te dire que tu bois de l'eau.
Ce que tu me disais, de l'eau, oui, de l'eau.
Effectivement, ce qu'on souffre.
En tout cas, on est mieux à New York, crois-moi.
Bah, écoute.
Tu restes jusqu'à quand, toi, Karen?
Écoute. Je vais rentrer.
Tu démarres en trombe.
Autour du 5 juillet.
Ah oui, d'accord, ok. Attention, fin juin, ça risque d'être très compliqué déjà.
Tu crois que je vais rouler fin juin?
Ouais, fin juin, ça va être compliqué, ouais.
Ça peut être compliqué, effectivement. Mais on commence en pleine forme, on est au taquet. Valentin, j'ai l'impression que le sélectionneur, notamment du Paraguay, n'est pas satisfait parce qu'il y a des changements à la pause, hein.
Oui, changement du côté paraguayen avec celui qui a marqué contre son camp, Bobadilla, alors que ça reprend à l'instant, coup d'envoi donné par les Paraguayens. Il est sorti le milieu de terrain, remplacé par Mauricio, et un changement également du côté des États-Unis avec l'entrée de Berhalter, qui est entré le milieu de terrain, Sébastien Berhalter, 25 ans. Je vais vous dire qu'il a remplacé d'ici quelques instants. Le coup d'envoi a été donné par les Paraguayens, donc 3-0 toujours pour les États-Unis, évidemment, avec le doublé de Folarin Balogun, ce but contre son camp de Bobadilla, et donc le grand monsieur de cette première période, c'est le Monégasque qui a notamment mis une troisième réalisation sublime, et les États-Unis qui font une très belle opération dans ce groupe avec l'Australie et avec la Turquie, puisque Mauricio Pochettino a quand même été très ambitieux en conférence de presse en disant s'il n'y a pas de finale ou pas de victoire, ce sera un échec. Bon, il a dit ça en prenant un peu de philosophie, mais pour dire, voilà, on n'est pas là pour faire huitième. Ils ont envie de faire mieux, notamment que lors des trois dernières Coupes du Monde où ils se sont fait sortir en huitième de finale. Maxime, est-ce que c'est culturel aussi les places vides à la reprise, parce que là les gens sont pas rentrés du bar.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en règle générale, il leur faut 10 ou 15 minutes pour sortir du bar.
Ouais.
Ils sont allés acheter des hot dogs.
La bière à $22 aussi.
Ouais.
Mais ça, c'est culturel aussi. Et je pense que Berhalter a remplacé Malik Tillman au passage. Voilà.
C'est comme Karine, entre la première et la deuxième heure, parfois elle met un peu de temps à revenir en place.
Pas du tout,
ouais,
c'est pas vrai.
C'est vrai.
Mais les distances sont longues aux États-Unis, vous le savez, entre le studio et autre chose, évidemment.
On annonce la sortie, messieurs, de Pulisic, messieurs dames.
Oh non, pas blessure, j'espère.
Ah oui, on annonce la sortie de Pulisic à la pause. Donc,
c'est Berhalter, parce que Berhalter est rentré. Berhalter est rentré.
Ça, on
espère pas de blessure pour eux, parce que c'est quand même leur meilleur joueur.
Mais ça voudrait dire que Berhalter a pris place dans le milieu de terrain et Malik Tillman, alors un cran plus haut à la place.
C'est pas le même profil.
En tout cas, c'est intéressant parce que Berhalter, c'est le joueur à suivre selon Elliot Cross qui est avec nous. Donc on va voir ce qu'il donne sur cette seconde période.
Très très bon joueur en MLS, en tout cas, du côté de Vancouver. Énormément de talent, et je ne serais pas surpris de le voir en Europe après cette Coupe du Monde, bien évidemment, s'il a l'opportunité de pouvoir se montrer. Ça a l'air d'être le cas sur cette deuxième mi-temps.
Eh bien, il a 45 minutes pour nous montrer ce qu'il sait faire. Merci beaucoup Valentin, on reste avec toi évidemment, mais on va prendre la direction de Times Square. Je vous l'ai dit, c'est la folie absolue là-bas. Demain, il y a un Brésil-Maroc, mais le match est déjà lancé. Les supporters marocains sont présents à New York, et on retrouve tout de suite Loïc Lefort en direct de Times Square. Loïc, ça a l'air d'être dingue.
Oh bah c'est la folie à Times Square, hein. Des milliers de supporters marocains qui se sont réunis ce soir à 21h, heure locale. Et je suis avec Wassim qui est en train de kiffer comme tous les Marocains présents ce soir.
Oui, exactement, l'ambiance est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous entendez en arrière-plan le cri des Marocains, les chants des supporters, l'hymne national. Vraiment, il y a une sensation de fierté, on a la chair de poule, enfin j'ai la chair de poule là en ce moment en parlant. On peut voir derrière d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas sur les écrans, il y a Morocco, Kingdom of Light, on peut voir de la pub du Royal Air Maroc. En tout cas, ils ont bien fait les choses, on en a les frissons et on est tous prêts pour demain.
Ouais, alors toute la semaine, les Brésiliens ont mis l'ambiance et là vous leur répondez un peu du tac au tac, quoi, c'est l'idée.
Merci beaucoup Loïc, parce qu'on s'est vu hier, on a fait une petite interview. Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de Brésiliens. Là, à mon avis, tu as ta réponse. Et puis, je te laisserai juger quelle ambiance est la meilleure entre la nôtre et celle des Brésiliens.
Bon, il y a plein de supporters marocains autour de nous.
Je m'appelle Sharaf, je viens de Strasbourg. On est là pour supporter le Maroc. On a pris un billet d'avion juste pour deux jours pour le match Maroc-Brésil. On est là avec la famille. Il y a ma fille avec moi.
Ouais, on est très content d'être là. Franchement, l'ambiance, elle est folle. Et franchement, on a hâte de voir le match demain. On a réussi à avoir des tickets, ce qui est très très rare. Donc,
Et avec mon fils qui...
Bah pareil, on vient aussi de Strasbourg et on vient supporter le Maroc. Et voilà, espérons qu'il fasse un bon match demain.
Okay. Bah, vous voyez, l'ambiance ici, elle est complètement dingue.
On va gagner.
Je crois qu'ils sont passés devant, là, les Marocains. Là. Ils sont passés devant.
Merci Loïc.
Merci beaucoup Loïc. Loïc Lefort en direct de Times Square pour le match que tout le monde attend. Ça sera demain. C'est le premier gros choc de cette compétition. On le rappelle, Brésil-Maroc. Ça sera en direct à minuit sur RMC. Messieurs, une information complètement lunaire. Eh bien, ce sont les Three Lions, les Anglais, qui préparent évidemment leur mondial, qui vont faire leur entrée en lice face à la Croatie. Eh bien, ils ont été victimes de cambriolage. Il y a un lot de crampons prévu pour ce match-là et une grande partie de leur réserves de ballons qui ont été dérobées. Voilà, c'est une information du Daily Mail. Ces équipements étaient dérobés dans un van du staff anglais alors qu'ils étaient en direction du camp d'entraînement.
Compliqué pour jouer au foot sans ballon.
Oui, sans crampons aussi. Ça fait quand même beaucoup d'histoire avec les États-Unis là depuis le début de la compétition.
Surtout les Anglais, entre ça et la fusillade, apparemment, c'est vrai qu'il fait pas bon d'être du côté des Anglais. Hein.
Walid, tu t'en fous? Non, tu vois, il s'endort.
Enfin, non, je suis là, mais personnellement, j'ai pas grand chose à dire
sur le vol des ballons.
Ouais, le vol des ballons et le vol des crampons. Après, si t'as une analyse pertinente, Karine, ne te prive pas là-dessus.
Alors, pas du tout. Vraiment, moi, je donne les informations et vous débattez.
Tu sais, tu peux être dans le dépassement de fonction, hein. Tu sais, écoute, très bien. Tu sais, tu prends le ballon et tu peux prendre la conduite de balle façon Sami Traoré et puis, tu la rendras à l'adversaire.
Écoute, en tout cas, je peux te dire que, en tout cas, merci.
C'est une information
que j'ai lue sur rmcsport.fr, voilà, bien évidemment. Exactement. Et je peux même te dire que les conducteurs sont soupçonnés.
Tomber du camion, quoi. C'est l'expression tomber du camion.
Américain ou anglais alors? Américain.
Ah bah écoute, les chauffeurs du van en question sont soupçonnés. Voilà
si
pour les informations.
Les team managers qui volent leur propre équipe, moyen.
Non, les chauffeurs, je t'ai pas dit.
Par contre, il y a une VAR check là, Valentin, mistaken identity. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire?
Donc ils ne savent pas quelle est l'identité, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Du jaune, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai pas compris.
Il y a des nouvelles règles qui sont mises en place pour le gain de temps, etc. Et donc maintenant la VAR peut être utilisée pour diverses règles, et donc si jamais il y a une erreur d'identité sur un carton qui est donné, l'arbitre peut
sur un carton jaune aller...
Ouais, bah c'est ce qui s'est passé. Il y a pas eu de carton rouge.
Il y a jamais faute.
C'est sur l'intervention sur Almiron.
Sur Almiron, ouais, de Rim.
Et donc on nous dit. Et voilà, Rim, ton grand ami Maxime, qui a 38 ans, qui
tacle en retard. Simulation totale.
Il a mis un jaune à qui?
Il a mis un carton jaune contre Rim sur cette action.
Almiron, je pense.
Il ne touche pas le ballon.
Il a un rouge dans la main.
Donc c'est simulation.
Ok, pas de jaune pour Rim. Et jaune pour
donc
Almiron.
Là, l'arbitre a effectivement un carton rouge dans la main. C'est le porte-carton qui est rouge.
On a 3 minutes pour une simulation sur un jaune.
Pour simulation.
Oui, mais c'est bien parce que là, en fait, finalement, la décision arbitrale est juste. Parce qu'Almiron, il est surpris, mais il a totalement grugé l'arbitre. Il a cru gruger l'arbitre. Ouais, et au final, il prend le jaune.
Mais là, en fait, on va pas s'arrêter
mais
d'aller
par
voir la
effectivement, les matchs, ils vont durer 2 heures si on s'arrête pour des situations.
Ils vont durer 3 heures, en fait.
Oui, mais au moins, peut-être que les joueurs vont comprendre que la simulation c'est plus une option.
Oui, très bien, Karine, merci beaucoup. Karine,
oui, okay. Moi je trouve ça très bien.
Oui, mais à ce moment-là, alors sur chaque contact,
mais non, parce que parfois il n'y a pas de simulation.
On risque de perdre un peu de temps, c'est vrai que si on prend sur chaque contact, en effet.
En tout cas, c'est la première fois que Karine, ça dans ma vie, quoi. Ouais.
Ils veulent gagner du temps en demandant à faire les touches plus vite, à faire les 6 mètres plus vite. Mais en fait, si tu perds le temps pour donner les jaunes que tu as pas
joué. C'est que lorsqu'il y a des simulations, il n'y a pas que des simulations, les garçons.
Non, parfois, s'il y a vraiment des mauvaises identités de joueurs ciblées sur des jaunes, par exemple, s'il y a une échauffourée ou je ne sais quoi, ou que l'arbitre se trompe, on peut revenir avec la VAR.
Non, mais là, ce que je peux comprendre, c'est que si, par exemple, Almiron avait déjà un carton jaune et qu'il y a finalement pas faute et simulation, ok, va lui mettre un rouge.
Non, mais c'est surtout, si tu prends la VAR pour ce genre de situation, tu vas prendre la VAR 10 fois dans le match. Et finalement, tu vas casser le rythme, et plus les pauses fraîcheurs, plus tout ça. Et
si Rim avait pris un jaune qui je sais pas, qui est suspendu pour le prochain match, ou je sais pas, s'il y avait un truc comme ça, à la limite. Mais là, je vois pas en fait quel est l'intérêt. Bon, bref.
Bah, moi, je trouve que c'est plutôt logique. Ça va peut-être dispenser certains joueurs des
situations. Oui, et puis peut-être sur la mauvaise relance. Orlando Gil qui a raté sa relance, récupération haute et la mauvaise passe.
Il doit
le ballon est rendu.
C'est
Tillman qui a voulu écarter sur la droite de la surface et la balle a été interceptée par un défenseur paraguayen. Sinon, c'était occasion de but pour les Américains.
Le Paraguay, ils sont dans la machine à laver là. Il faut vite ramener la bombe là, le KDER là, et faire tourner la machine à laver parce que là, ils sont en totale perdition, les Paraguayens là. Ils font des rôles lance mais cataclysmique.
Tu utilises beaucoup de K2R.
Tu fais surtout des lessives, c'est la question.
Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive.
Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot.
Tu connais pas la
petite bombe. Mais bien sûr, mais attends.
La bombe rose K2R. Le détachant.
Mais bien sûr, j'en ai à la maison, bien sûr.
Oui, évidemment.
Ça fonctionne plus ou moins bien. Maxime, il sait pas de quoi on parle. Il a jamais fait de machine de sa vie. L'assister, là. C'est vraiment le footballeur de base assister.
Non, j'achète des nouveaux habits chaque jour.
Oh là là, arrête, quel cliché.
Non, ça, je me permettrai pas. Non, je suis pas un grand fan. Enfin, si, je suis un grand fan des lessives, mais je sais pas trop les faire. J'ai une marge de progression sur les tâches ménagères.
Par contre, je sais pas. Alors moi, je fais les lessives, ouais. Mais je sais pas.
C'est pas si elles sont bien faites.
Je sais pas qui est grand fan des lessives.
Par contre, ça faudra
trouver le mec qui dit moi les lessives, je suis un grand fan.
Voilà.
Je suis un grand fan des lessives.
Ouais, je suis pas le meilleur avec ça, mais j'ai une grosse marge de progression. Je suis un grand fan des lessives.
On a bien compris que tu faisais jamais de lessives.
Si, je fais.
Oui, voilà.
Parce que je les fais bien, c'est encore autre chose.
Exactement.
C'est pas compliqué, tu sais.
En tout cas, t'es de bonne intention.
Oui, j'essaie.
Exactement. C'est plus important.
Mettre du linge dans un tambour et éventuellement
le blanc et la couleur.
Si tu mets une petite lingette, oui.
Ah bon.
Et mettre du K2R sur les tâches, c'est à la portée de tout le monde, Maxime.
Ouais,
je t'assure.
Je ne tâche pas autant que ça, ça va.
Tu peux le faire.
Très propre, très propre.
3-0 donc pour les USA face au Paraguay. Dans quelques instants, on va parler de l'équipe de France, la carte postale. Les Bleus, vous le savez, sont à Boston pour se préparer pour le match face au Sénégal. On se retrouve dans quelques instants. On est en direct sur RMC jusqu'à 5h du matin. À tout de suite.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Karine Gagne.
On est ensemble sur RMC jusqu'au bout de la nuit, en direct jusqu'à 5h du matin. On est avec vous pour vous accompagner dans le début de votre journée, ou pour ceux qui vont rentrer très tard après une belle soirée. On vous accompagne également avec Walid Acherchou et Maxime Chano. Pour l'instant, tout va bien. Les USA mènent 3-0 face au Paraguay. Premier match de la Team USA dans cette compétition. Et beaucoup de stars présentes, évidemment, pour ce premier match à Los Angeles. Mais il y a les stars et puis il y a l'équipe de France. Nos stars à nous. On va en parler justement de cette équipe de France qui est évidemment basée à Boston. On est toujours avec Valentin Jamin qui va tout nous dire sur les Bleus. Valentin, les Bleus sont en préparation. Il y a une mission évidemment, c'est être prêt pour le match de mardi face au Sénégal. Dis-nous tout sur cette nouvelle journée d'entraînement pour les Bleus.
Alors, entraînement en public d'ailleurs pour l'équipe de France. Vous entendez derrière moi, il y avait 400 personnes et le grand gagnant, encore une fois, à l'applaudimètre, c'était Kylian Mbappé. Donc, 400 personnes qui venaient de l'université de Bentley où s'entraînent les Bleus, qui ont été invités par la mairie, et puis 50 Français via le consulat de France. Donc, tous ont pu assister à cette séance de quasiment 2 heures. Mbappé le plus acclamé, mais également Dembélé, Olise, un peu de Cherki. Voilà pour l'ambiance et pour l'atmosphère. Ce sera peut-être la seule séance d'ailleurs qui sera ouverte au public. Et puis pour les enseignements, alors Saliba qui sera un cas quand même à surveiller, mais on le sait depuis le début du rassemblement, il est un petit peu gêné au dos. Il a quand même pu jouer face à l'Irlande du Nord une mi-temps. Là il a été préservé, il a fait les soins, il a son programme adapté. Et puis on a également 2 joueurs, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni, qui ont été préservés. Alors pas d'inquiétude pour ces deux-là, la veille c'était Rabiot, donc on gère les organismes du côté du staff en fonction des sensations. Sinon les 23 autres joueurs étaient là. Et puis on a eu une séance somme toute classique avec échauffement, jeu de passe, et puis deux oppositions, une sur demi-terrain, une sur trois quarts de terrain, avec les bleus et les oranges, les deux équipes qui ont joué pendant 30-40 minutes et qui ont joué sous le soleil parce que ça tapait encore très très fort, 35 bons degrés, 60% d'humidité du côté de la température. Et l'idée c'est encore une fois de s'habituer à cette température de milieu d'après-midi, puisque le Sénégal et la Norvège Liège, ce sera à 15h. Voilà pour ce qu'il faut retenir de la séance du jour. Demain, il y aura également une séance, mais elle sera à huis clos à 15h30, donc toujours en milieu d'après-midi à l'université de Bentley.
Tu l'as dit, il y a vraiment ce paramètre que les Bleus doivent intégrer, le temps qui est compliqué avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Est-ce que les Bleus réagissent plutôt bien?
Oui, c'est ce qu'ils nous disent, même si on a vu des petites vidéos parfois avec la Cherki qui a dit il y a trop de soleil, parce que c'est vrai que c'est difficilement supportable, hein. Dès que vous faites un pas dehors, vous suez parce que c'est vraiment très très humide. Mais il y a eu des réunions à ce sujet. On a demandé aux Bleus de bien s'hydrater. On parlait de 4 à 6 litres d'eau par jour, de mettre des serviettes, hein, avec de la glace bien fraîche là sur la nuque. On les voyait faire. Il y a une tente qui a été installée juste à côté du terrain pour que les Bleus aient de l'ombre également. Et puis il y a aussi d'autres paramètres comme la climatisation. Alors pour le coup, c'est pas pour récupérer ou pour s'hydrater, mais on a dit aux joueurs de faire attention à ça parce que aux États-Unis ils sont assez friands de la clim. Ce serait bête d'avoir un coup de froid. Donc tout a été pensé. Et puis encore une fois, hein, la préparation en plein après-midi pour être à l'heure du match de mardi. Donc tout a été pensé, mis en place, et il y a eu des réunions avec le staff. Donc chacun gère comme il peut, mais les joueurs ne s'en plaignent pas quand ils sont interrogés sur le sujet.
Les garçons, votre point de vue, alors évidemment, Maxime, toi tu es un sportif de haut niveau, Walid d'un niveau un petit peu plus intermédiaire.
Walid, non, mais toi,
ça vous inquiète.
Très très haut niveau, au paddle apparemment.
Ça vous inquiète pas les conditions, Walid? Franchement, c'est intenable.
Moi, j'en ai parlé. Bon, même si je sais que toi, depuis deux jours, t'es en boucle là-dessus sur les. Sur les
je suis en perdition
exactement,
totale.
Si, dès que tu sors 10 minutes, t'es apeuré. tu vois des serpents. C'est la même chose que cette chaleur.
Je ne respire pas.
Mais moi, j'en ai parlé hier. Surtout face à un adversaire comme le Sénégal, qui est quand même habitué dans les Coupes d'Afrique des Nations à jouer à de fortes températures en journée, même s'il y a beaucoup de joueurs européens dans cette sélection. Et c'est vrai qu'il va falloir s'adapter. Moi, je me rappelle d'un France-Suisse 2006, 0-0 sous le cagnard à Stuttgart, il me semble, qui avait un peu figé le début de compétition des Bleus. Donc ouais, c'est vrai que les conditions vont être à prendre en compte, et si ça se passe mal, il y aura je pense cet argument là chez les joueurs ou chez le sélectionneur.
Mais après, bon, ils ont eu la Coupe du Monde des clubs aussi, hein.
Aussi normalement préparé à ce type de chaleur.
Si je peux me permettre, c'est pas la même chaleur, hein. Pour avoir parlé avec Denis Bouanga, qui était international gabonais et qui jouait avec moi à Los Angeles, il me disait très justement que quand il partait en Afrique, c'était absolument pas justement la même chaleur. C'est beaucoup plus humide. Alors évidemment, je veux pas dire que les Sénégalais vont être aussi impactés. Mais c'est vrai que je pense que voilà, ça va être forcément compliqué pour les deux équipes. C'est aussi pour ça que les pauses fraîcheurs existent. Et c'est quelque chose à prendre en compte. Hein. C'est quelque chose clairement à prendre en compte. Moi, je me souviens quand j'étais justement joueur, Karine, que c'était pas facile. Après, il y a un temps d'adaptation. En règle générale, après une semaine, 10 jours, je pense que le corps s'adapte. Donc j'ai bon espoir que les Français qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps finalement. Mais que,
ils sont arrivés mercredi.
Qu'ils puissent être en tout cas adaptés à cette humidité plus que la chaleur, et qu'ils puissent ne pas trop être impactés par justement ce facteur qui pourrait empêcher une bonne performance pour l'équipe de France.
On rappelle que le match aura lieu à 21h heure française. Donc chez nous, ça fera quelle heure?
15h.
Ah oui, 15h aux États-Unis.
Oui, c'est pour ça qu'ils s'entraînent l'après-midi, pour s'acclimater et pour être habitués à ces horaires.
C'est vrai qu'il y a un peu mieux quand même.
Ah, viens d'apprendre le décalage horaire, Karim.
Non, mais 15h m'a fait.
Mais en plus, le pire, c'est que.
Mal pour eux.
Je parlais avec Karim tout à l'heure, elle me dit qu'elle va 4-5 fois aux États-Unis par an quand même.
Mais j'ai jamais
moi,
eu de.
Moi, c'est la première fois que je vais à New York
ça.
Et j'ai l'impression d'être un peu plus. Au courant, en fait, au fait de tout ce qui s'y passe.
Mais écoute, j'étais déjà venu à New York, mais jamais au mois de juin. Je déconseille d'ailleurs à tout le monde, parce que c'est terrible au niveau de la respiration.
C'est terrible, ça va.
Attends, le mois de juillet et le mois d'août. Hein.
Mais n'y allez pas à ce moment-là. Le mois de septembre.
C'est septembre, toi, c'est septembre.
Exceptionnel.
Septembre et avril.
Oui, quand les touristes sont plus là.
Septembre et avril.
Ouais. Il fait très bon, les billets d'avion sont moins chers, il y a moins de monde, et le temps est parfait.
Ah oui, d'accord.
Non, septembre, l'été indien, tu connais.
Mais pourquoi t'as pas demandé à Infantino de la faire en septembre? Coupe du Monde.
Écoute, s'il m'avait posé la question, vraiment, je lui aurais dit mon Gianni. Vraiment, septembre.
Écoute, Tata Karine.
Voilà. Ou mars-avril. Mais là, on est en souffrance. Enfin, moi, visiblement, ouais. Vous avez l'habitude, je sais pas comment vous faites.
Non, en tout cas, à l'intérieur, sous la clim.
Ouais, en tout cas, non, c'est pas une vie.
Non, c'est pas une vie, non. Excuse-moi. Et pourquoi on n'irait pas jouer dans des gymnases pour les joueurs, Karine?
Ça s'appelle le futsal.
Ah, c'est le futsal.
Ouais. C'est un autre sport.
Ouais, parce qu'en fait, non, parce qu'on va pas les plaindre non plus. C'est quand même une Coupe du Monde. Ça va, sûr, il fait demain. On va, ça va. Les pauvres choux, ils peuvent faire 90 minutes. Non, c'est pas pour eux, non
mais ça je sais pas. Moi, je peux même pas marcher dans la rue.
Ah, d'accord, okay, oui, d'accord.
Non, mais tu t'adaptes. Mais c'est vrai que ça impacte forcément la performance, Walid. Après,
oui, bien sûr.
Il y a des post fraîcheurs. Enfin, je veux dire, il fait pas non plus. Ça va,
je viens de voir un Roland Garros la première semaine.
Mais t'as vu le post-sineur, il a pas survécu.
Ah, bah d'accord. Bah, ça fait partie du sport, c'est comme ça, c'est le sport en extérieur. Sinon on fait du foot en salle, ou sinon on fait d'autres choses, quoi. On fait du ping-pong, ou on fait, je sais pas. Là, c'est le foot, les conditions, c'est du outdoor, comme disent les Américains. Et on doit s'adapter à ça, quoi, en fait. Je sais pas.
Les températures qui risquent d'être un peu mieux, hein, sur les prochaines semaines, hein, je pense, t'as vu. Là, c'est vrai qu'on a eu, comme des épisodes assez incroyables.
Enfin, l'année dernière, ils ont joué quand même à midi, le PSG contre l'Atlético. Là, c'était un peu plus problématique, quand même.
Écoute, ouais, Coupe du Monde des clubs, je peux te dire que nous, on a joué pareil à 15h là, contre l'Espérance de Tunis, et on l'a senti. Hein.
Voilà, donc oui.
Tout le monde s'en est sorti bien.
Avec certaines crampes, un peu de crampes. Mais... Enfin, moi, sur le banc, ça allait, les crampes.
Ah, t'étais déjà sur le banc en fin de du Monde des clubs.
J'étais cramé.
Mais j'étais déjà rentré.
T'étais déjà en discussion avec Jimmy et Antoine Varnier, quoi, pour le contrat RMC, quoi.
J'avais déjà un pied dans le studio.
Ah ouais, t'avais déjà un pied dans le studio.
La carrière de footballeur était déjà terminée. Et ça,
un pied dans le studio, un pied chez Mike.
Le grand écart.
Exactement. Il faut être souple. Il faut être très très souple.
Coup d'envoi à 15h, on le rappelle évidemment, c'est important cet horaire. Donc pour ce France-Sénégal. Messieurs, aujourd'hui, tu l'as dit, hein, Valentin, il y avait Lucas Hernandez notamment en conférence de presse. Le défenseur du PSG s'est exprimé notamment sur les points forts de l'équipe de France. On l'écoute.
Je pense que l'équipe de France a tout. Vous l'avez dit. Défensivement, on est une équipe très solide, très costaud. Offensivement, on est une équipe qui a beaucoup de dangers aussi. Après, aussi, c'est à nous de nous adapter à l'équipe qu'on a en face. Si c'est une équipe qui veut avoir la possession, on se sent très bien parce que défensivement, on est une équipe très très solide et qu'on a beaucoup d'aide, avec ça soit les milieux ou même les attaquants qui nous aident beaucoup défensivement. Et après, si c'est une équipe qui joue plus défensivement, on a la qualité aussi pour garder le ballon, pour avoir la possession et pour essayer de faire du danger.
Lucas Hernandez, donc, Lucas Hernandez qui est en conférence de presse aujourd'hui pour les Bleus. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Lucas Hernandez? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il nous dit on sait très bien défendre. Est-ce la réalité alors que l'équipe de France prend quand même souvent des buts? Et après, il dit on doit s'adapter à l'équipe d'en face. Quand on est une équipe dominatrice, quand on est une équipe majeure, est-ce que c'est pas l'inverse normalement? J'ai pas l'impression que l'Espagne s'adapte à l'adversaire.
Ouais, mais je pense que la France, de toute façon, va impacter toutes les équipes hormis l'Espagne. Hein. Comme ça que je vois le truc. Hein.
J'ai surtout l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Hein.
Ouais, j'ai surtout l'impression que ces conférences de presse-là servent à rien.
C'est exactement ça.
Mais après,
je donne ce que vous avez besoin d'entendre.
Et puis Lucas Hernandez, il sera, je pense,
sur le banc comme Maxime Chanon.
Il sera plus animateur MJC.
Il sera consultant privilégié, je pense, de la compétition. Il sera sûrement là pour contre l'Irak, peut-être, pour défendre. Mais globalement, je suis pas sûr que.
Il n'est pas annoncé titulaire, ouais, c'est moins compliqué.
Enfin, je pense que Lucas Digne, Théo Hernandez à gauche.
On se rapproche plus d'une situation à la Adil Rami qu'un titulaire en force, c'est clair. Ouais, mais
il est plus proche d'Adil Rami que de Varane en 2018, j'ai l'impression. Mais après,
il en faut,
bien sûr. Maxime, il était là. Maxime, il était là pour ça.
Tu le faisais bien, toi, Maxime.
Je l'ai fait que pendant une compétition, attention.
En tout cas, demain, il aura moins chaud qu'au Pamecano, j'ai l'impression. En tout cas, sur le terrain. Mais après, sincèrement, je comprends pas ce qu'il dit. Ouais, déjà sur l'aspect défensif, moi je trouve qu'il y a quand même des errements et des déconnexions côté français qui moi m'inquiètent par moments, où je trouve que quand il y a du temps mort, quand il y a des temps morts, des temps faibles, ils sont capables de se faire piéger bêtement, les Français. Je trouve qu'il y a un manque de maturité sur certaines situations. Et puis après, l'histoire d'impact, moi je pense que l'équipe de France doit impacter sur 90% de la compétition. Hein. De toute façon, ils vont être obligés. Hein. Si je suis adversaire de l'équipe de France, si je leur laisse des espaces, je suis un fou. Hein.
Non, mais le scénario des matchs qu'on va voir, que ce soit contre le Sénégal et à mon avis même contre l'Irak et peut-être même contre la Norvège, en fonction évidemment des deux premiers résultats, mais tu vas avoir des équipes avec des blocs bas qui vont attendre les Français. Donc s'adapter à l'équipe d'en face, ça n'a aucun sens, c'est ce qu'est en train de dire Hernandez. Alors est-ce qu'il a envie de donner ce que les journalistes ont envie d'attendre? Sûrement, parce qu'honnêtement.
Je pense qu'il y a un peu de ça. Hein.
Je pense qu'honnêtement, Clairement, c'est complètement inutile sa conférence. Il a juste
envie de dire. De toute façon, là, il faut se dire les choses. Ceux qui nous écoutent, bon, même s'il ne doit pas en avoir énormément à cette heure-ci. Mais
tu penses que le monde entier n'est pas branché sur RMC?
Non, mais entre.
Parce qu'attends, là, il est quelle heure? Il est 4h30.
Ouais, on va dire les choses à 4h30. C'est-à-dire qu'avant le match de l'équipe de France, entre ceux qui parlent de l'équipe de France, ceux qui écrivent sur l'équipe de France, ceux qui doivent répondre aux questions de ceux qui écrivent ou qui parlent de l'équipe de France, on est quand même dans une zone un peu morte là sur les trois derniers jours où c'est quand même complicado. Hein. C'est-à-dire que vivement que les matchs commencent et que la
vivement
fête commence.
Vivement le match à 15h. Ah ouais,
exactement, parce que là on brode jour après jour et les joueurs font partie aussi de cet écosystème là.
Non mais Valentin, tu suis les Bleus depuis de nombreuses années. Quand il dit on sait bien défendre, moi je suis désolé, je reprends les derniers matchs. Irlande du Nord, on prend un but. Côte d'Ivoire, on prend deux buts. Colombie, on prend un but. Brésil, on prend un but. On prend même des buts face à l'Azerbaïdjan. À quel moment la France est une équipe qui défend très très bien?
À l'Euro 2024, la France est une équipe qui défend très très bien.
Enfin, on est en 2026, Valentin.
Avec sa défense. Oui,
ça
mais
c'est
bon,
vrai,
tu parles aussi de matchs contre l'Azerbaïdjan, etc. Avec 2024, des défenses complètement expérimentales. Après, on va pas se mentir. Lucas Hernandez, il joue quasiment pas avec l'équipe de France. Il va pas aller mettre un tir à sa défense qui, effectivement, était un peu plus en difficulté.
Politique.
Et la question à la base, c'était est-ce que vous pourriez nous définir un peu, c'est quoi en fait l'équipe de France? Comment joue l'équipe de France? Il a fait un peu un mix de tout, un globi-boule. Et voilà sa réponse. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Il a contenté aussi
les langues de bois quand
les gens,
joueur,
il s'est pas trop mouillé.
Et puis tu as dit quelque chose de très juste, c'est qu'il est dans une situation où il peut pas se permettre justement d'aller critiquer ses coéquipiers.
Voilà, elles sont là, tout le monde est huilé, tout le monde fait corps, c'est normal. Hein. C'est normal.
Je dis ça en souriant, mais la conférence de presse, elle a commencé avec un journaliste, parce que je sais pas si vous vous rappelez de quand Lucas Hernandez avait dit qu'on avait la meilleure attaque du monde.
Oui, ça c'était au mois de mars et ça avait pas plu.
Il a répondu qu'il l'avait appelé même. Je crois qu'il l'avait. Il l'a appelé pour lui dire qu'il faut pas dire ça.
Il a raconté qu'il avait appelé Lucas pour lui dire de pas dire des choses pareilles. Bon, il y avait un petit peu de rigolade dans l'histoire.
Il a dit qu'on avait une équipe moyenne et que l'attaque était pas dingue apparemment.
Il a surtout compris la leçon de.
Il a quand même dit que Mbappé allait faire taire les critiques. C'était peut-être sa phrase la plus forte.
J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça très juste.
De toute façon, là, tout le monde est uni
derrière Mbappé.
J'aime bien.
Moi, j'avais des réserves par rapport à les problèmes d'ego. Alors
après, ils peuvent pas dire.
Ils vont pas dire l'inverse.
Non, mais tu le sens quand même. Le fait qu'il se positionne.
Il y a pas un qui va dire non. Moi, je vois Mateta démarrer.
Mais tu peux.
Mateta était en conférence de presse aujourd'hui. Je crois qu'il se voit pas non plus démarrer. Il était très discret.
Passé sous silence le cas Mbappé, et je trouve que tout le monde est derrière lui, tout le monde essaie de le mettre évidemment en confiance, et j'avais mis en avant les problèmes d'ego de l'équipe de France si jamais évidemment les résultats ne devaient pas suivre. Mais en tout cas, ce qu'on voit pour l'instant, l'altruisme de tous ces joueurs, la bonhomie, parce que j'ai le sentiment que tout le monde rigole aussi, bon, évidemment en dehors du terrain mais même sur le terrain. J'ai bon espoir, tu vois. Moi, je posais des réserves sur cette équipe de France, je parlais du cas 2002, que ça allait péter en l'air, et on verra ce que ça va donner, hein, l'avenir nous dira, mais j'ai bon espoir malgré tout qu'ils me fassent mentir. En tout cas, je souhaite, en tant que Français, en tant que supporter des Bleus, qu'ils aillent au bout. Et en tout cas, ils sont armés pour. Hein.
Supporter des Bleus avec un maillot USA sur le dos.
Ah, je peux être luxembourgeois. Des Bleus et américain.
Mais toi, t'es supporter de tout le monde. Au moins, t'es sûr de gagner un moment. Ils sont faciles, ceux-là.
Non, j'ai pas choisi l'Irak ni le Cap-Vert. Et j'aime beaucoup les Irakiens et les Cap-Verdiens. Attention, mais
j'en connais beaucoup.
Oui, Cap-Verdiens, j'en connais quelques-uns, dont mon ami Steven Moreira.
Steven Moreira qui joue à Lorient et à Toulouse.
Et exactement.
Et on embrasse Nuno Da Costa.
Et Nuno Da Costa.
Parce qu'il était dans le podcast Cap-Vert.
Ok.
Voilà.
Et Logan Costa aussi.
Oui, mais ça, je le connais pas non plus personnellement. Personnellement.
Ok, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Et Nuno Da Costa, c'est celui qui jouait où?
Qui a joué notamment à Auxerre, à Valenciennes, et là, il est en Turquie.
Il est à Strasbourg aussi, non?
Strasbourg.
Tout à fait, exactement.
D'accord, ok, je vois c'est qui, ok, voilà. Je vois, très très bien.
Et nous avons eu le bonheur de l'avoir comme invité du podcast Cap-Vert, parce qu'on rappelle que le Cap-Vert va participer à la première Coupe du Monde de son histoire, cette Coupe du Monde à 48, et on avait été ravis de l'avoir comme invité. On va tout de suite partir retrouver Valentin Jamin qui est toujours avec nous. Valentin, les USA.
La réduction de l'écart du Paraguay, exactement, avec le but de Mauricio qui était entré à la pause. 73e minute de jeu, décalé sur la gauche de la surface, la frappe croisée de Mauricio, et 3-1 maintenant pour les États-Unis face au Paraguay. Un gros quart d'heure à jouer, normalement pas de panique du côté des Américains, mais attention parce que les Paraguayens, qui n'ont pas été dangereux de la seconde période, ont réussi quand même à marquer et à ouvrir leur compteur. hauteur. Ça part d'un long dégagement du gardien d'ailleurs. Il n'y avait pas un danger imminent sur la défense américaine. Deux duels gagnés. Et derrière, on a réussi du côté de Julio Enciso qui sera passeur sur le coup. Le Strasbourgeois a décalé Mauricio. Entré à la mi-temps. 3-1. 73e minute de jeu. Les États-Unis sont encore devant.
C'est très mal défendu,
parce que Pochettino a fait des changements et les Américains sont passés, j'ai le sentiment, à 4 derrière. Voilà, et je pense que ça a créé un déséquilibre. Et en effet, c'est pas très très bien défendu sur la largeur. Et ça a permis aux Paraguayens de se retrouver absolument seul devant Matt Fries, le gardien de New York City. Il a pu ajuster d'un plat du pied gauche. Il y a eu un très bon décalage, justement, des joueurs paraguayens. Comme quoi, quand tu fais des changements, quand même, ça déséquilibre une équipe. Hein.
3-1 donc. Est entré, notamment. Timothy Weah, Ricardo Pepi en attaque sont entrés côté américain. Et bien Mauricio qui a marqué. Et Alex Arce également. Attention à la mauvaise passe là en retrait des Paraguayens. Ça a eu une balle de 4-1. La frappe peut-être de Tillman dans les gants. Dans les gants de Orlando Gil. Là, il y avait mieux à faire sur ce ballon récupéré.
Mieux faire ton ami Tillman, là, Maxime. Hein.
Il peut
un peu moins de discussion après, avec Maxime Chano après. Et un peu plus de
être efficace, la tueur devant le but,
pense qu'il peut tirer en première attention. Il a peut-être voulu un peu trop en faire avec ce crochet. Après, c'est plus quand même un milieu offensif qu'un attaquant, Walid.
Donc, oui, bien sûr, mais même tout à l'heure, pourtant j'aime beaucoup le joueur, moi j'aime beaucoup le joueur.
Ouais, très très bon joueur. Et il ressemble d'ailleurs beaucoup à son frère. Tu sais qu'il a un frère jumeau, enfin qui lui ressemble. Ils ont été formés ensemble du côté du Bayern Munich.
Merci beaucoup. 3-1 pour les États-Unis face au Paraguay. On se retrouve dans quelques instants. On est en direct sur RMC jusqu'à 5h du matin. On vous accompagne tout au long de vos nuits. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli. On est ensemble sur RMC en direct jusqu'à 5h du matin avec Walid Acherchoua, avec Maxime Chano. Pour l'instant, les États-Unis mènent 3-1 face au Paraguay. Messieurs, les informations du jour. Eh bien voilà, Ancelotti déjà a confirmé le forfait de Neymar pour l'entrée en lice du Brésil face au Maroc. C'était attendu. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera disponible. Et ça peut quand même polluer aussi la Coupe du Monde. Alors Neymar n'est pas un titulaire en puissance, mais on se rappelle tout ce qui s'est passé avec les Bleus par le passé. Zizou, Vieira, etc.
C'est pas le même statut.
Oui, mais c'est jamais bon.
C'est le même statut.
Ouais, ça sent le roussi quand même, hein, Walid.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est moins problématique s'il est blessé que s'il n'est pas blessé, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, c'est comme moi, s'il est blessé, tu ne peux pas le faire jouer, donc il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de débat derrière après les émissions, etc. au Brésil. Tu vois, s'il n'est pas blessé et qu'il ne le fait pas jouer, là, c'est un problème. Donc là en fait, il n'y a pas de débat, quoi. Donc, ouais. Et puis par rapport à Zidane et Vieira, excusez-moi, mais Zidane et Vieira, ce qui est représenté à ce moment-là dans l'équipe, Neymar, c'est pas la même chose, je pense, à l'instant T. Enfin, peut-être émotionnellement, psychologiquement, c'est aussi fort. Mais par contre, sportivement, je ne suis pas sûr.
Et puis j'ai le sentiment que Neymar a été aussi choisi, évidemment, pour faire plaisir un petit peu au public brésilien, mais aussi
à ses partenaires. Les partenaires le voulaient.
Mais c'est bien, mais il est là, il va les accompagner.
Pour accompagner le groupe. Hein.
Bah voilà, et il
sera là. Neymar, c'est quelqu'un qui s'entend très très bien avec tous les joueurs. Donc de l'avoir autour de toi, même s'il n'est pas sur le terrain, et là je rejoins Walid, peut-être que ça enlève une épine du pied à Carlo Ancelotti. Comme ça, il n'y a pas de sujet de savoir si oui ou non tu le mets titulaire. Maintenant.
Haïti, c'est deuxième match ou troisième match?
Je vais te
maintenant,
dire.
En règle générale, Walid, tu sais très bien que quand ça commence comme ça, ça sent jamais très très bon. Hein. J'espère sincèrement qu'il va revenir à temps pour pouvoir être prêt
deuxième
à 100%.
Match. Deuxième match. Okay.
Mais, tu sais, ça c'est le genre de scénario où est-ce qu'il va jouer sur le deuxième ou troisième match à 50% et il va se répéter, il va être moyen.
Oui, voilà.
Et c'est toujours la même question. Est-ce que tu prends un joueur qui est blessé à l'approche d'une Coupe du Monde?
Moi, je pense que l'enjeu, il est pas si dingue. Je pense.
Messieurs, les informations du jour rapidement. Vercoutre, entraîneur des gardiens à Lille. On rappelle que c'est Davide Ancelotti, donc le fils de Carlo, qui est nommé pour prendre la suite de Genesio. Vercoutre qui est entraîneur.
Moi, je vais rien dire sur
gardiens.
Lille, mais on avait un peu parlé déjà. Ce qui se passe à Lille là,
original, hein,
c'est très original.
Davide Ancelotti,
ça comme ça,
on l'avait pas vu venir.
Ouais, c'est très original. C'est duo, on va attendre. Enfin, après, il est entraîneur des gardiens, c'est pas son adjoint. Hein.
Il est entraîneur des gardiens.
Après, entraîneur des gardiens, tu sais, tu peux avoir un poste important, notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est souvent les entraîneurs des gardiens qui s'occupent des coups de pied arrêtés. Et puis, bon, faut quand même une osmose entre le staff technique.
Deon faisait du très bon boulot.
Nicolas Deon,
qui est parti à Marseille.
Qui était du côté de Dubaï. C'est ça ?
Qui ?
Vercoutre.
Non, Vercoutre, il était avec Genesio. Et après, il est parti en même temps que Genesio, il me semble. Pierre Sage, pardon. Il est sorti l'année dernière avec Fonseca quand Fonseca est arrivé à Lyon. Et depuis, je sais pas.
Il était parti en MLS. Il était avec Thierry Henry à une époque.
Oui, d'accord, mais là, je te parle là, sur la dynamique. Ses dernières missions, c'était Pierre Sage avec Lyon. Je me rappelle, après, il était consultant Ligue 1 Plus, Vercoutre, oh, en début de saison.
On l'a vu un petit peu.
Ouais, il était sur le plateau de Ligue 1 Plus.
Ouais, bon, écoute.
Ah ben là, non, mais t'as raison, il était à Dubaï aussi.
De mémoire, moi, en effet, on l'a eu du côté de Montréal, je me souviens, et je pense qu'il était à Al Wassel, quelque chose comme ça.
Voilà, il était
avant Dubaï, Lyon ou après Lyon
Après Lyon. Après Lyon. Oui, justement, après Lyon, et c'est la raison pour laquelle j'ai vu qu'il a fait un message justement d'adieu pour dire qu'il quittait justement Dubaï et qu'il allait signer à Lille. Donc
il revient en France, Rémi Vercoutre, en tant qu'entraîneur. Will Steele, ça a été officialisé, donc entraîneur de l'AJ Auxerre, on le rappelle, il a signé jusqu'en 2028. Est-ce que vous y croyez à ce match?
Ce match, quel match? Ah, tu parles, d'accord.
États-Unis-Paraguay?
Ouais, parce que là, je suis sur États-Unis.
Au match, Auxerre-Will Steele, parce que par exemple.
Le featuring. Ouais.
Parce que par exemple, Lens-Will Steele, alors il y a eu des problèmes évidemment de santé, notamment pour l'épouse de Will Steele, mais c'est vrai que c'est. Ça n'a pas marché.
Pourquoi pas? Moi, Will Steele, il m'a un peu déçu sur les dernières. Les dernières missions, notamment à Lens, à Southampton, j'ai pas suivi. Oui.
Bon, de toute façon, ça a été rapide. Tellement rapide.
Moi, j'étais un grand fan de ce qu'il avait fait à Reims. Maintenant, il a encore un crédit en Ligue 1 pour aller dans ce type de club-là. Après, attention, parce que tu peux reculer. Et après, il y a un moment.
Après Auxerre, tu tombes. Hein.
Voilà, après Auxerre, c'est la Ligue 2. Quoi, ouais. Mais moi, j'aime bien le coach. J'aimais bien le coach, en tout cas. Maintenant, à lui de redonner une dynamique différente à sa carrière. Ah, on va voir. De toute façon, Auxerre, ils vont pas jouer le top 6. Hein,
et moi, je trouve ça très surprenant d'avoir décidé de te séparer de Pélissier, parce que quand tu regardes quand même. Il a pas fait un mauvais travail. Hein. Il a refait monter.
Soit lui, soit Venti. Ouais, voilà.
Après,
gros
problèmes.
C'est vrai qu'il a fait, il a eu l'opportunité de. Pas mal que les deux là. Ça, il est très tard.
Non mais
Pélissier, moi, je trouve qu'il a quand même fait du bon travail. Hein. Il les a refait monter en Ligue 1. La première saison est plus qu'honorable. La saison dernière a été un peu plus compliquée, mais pour autant, il arrive à les maintenir alors qu'on les voyait déjà presque condamnés en Ligue 2. Moi, Will Steele, j'avais dit très tôt que je le trouvais un petit peu surcoté, notamment ce qui s'est passé sur sa dernière aventure à Lens. Tu l'as justement dit, Karine, je sais pas si on peut vraiment lui.
Il y a eu des problèmes extra-sportifs, évidemment.
Il a fait quand même une 8e place, même si c'était pas ouf dans le jeu.
Moi, je trouve que c'est sa communication qui l'a bien sauvé en tant qu'entraîneur. Oui, il a eu un problème. Jeune, qui a une possibilité, qui a vraiment.
Non, moi, je pense que la communication l'a tué.
Oui,
tu vois ce que je veux dire.
Au début, c'était sympa, c'était frais,
c'était très frais.
Après, déjà la fin de Reims, c'était compliqué.
C'est un entraîneur qui est bilingue, qui switch très très rapidement, sans accent, entre le français et l'anglais. Tu sens très bien que c'est un manager. Mais en effet, dans sa communication, moi, je trouve qu'il a été très très moyen, mais il a porté un peu de fraîcheur à ses équipes en règle générale. Je persiste et signe que je pense qu'Auxerre a fait une erreur de séparer.
Après, t'as suivi Reims, toi, ou pas?
Parce que j'avais suivi Reims.
Club.
Oui, mais t'étais encore joueur. Parce que moi, je me le suis pris vraiment.
Non, mais c'était très très bon.
Reims, avec Balogun, etc.
Parce que c'était de la nouveauté. Oui, c'est pour ça.
Après, c'est vrai que c'était décevant.
Et à l'époque, le club travaillait très bien.
Oui, c'est vrai. C'est parce que Will Steele.
Oui, mais il y avait au niveau du recrutement aussi, il y avait des bons choix.
Enfin, après, dès qu'il est parti, Will Steele, c'était très compliqué, hein, parce qu'entre Luc Elsner et derrière ce qui s'est passé avec Samba Diawara, ils sont tombés en Ligue 2, quoi. Mais, et puis, Lens, moi, c'est surtout sur le projet de jeu que je m'y retrouvais pas, et j'en avais parlé avec lui à plusieurs reprises, qu'il est toujours très intéressant et lucide sur son travail. Moi, j'étais pas fan. Je trouvais qu'il était beaucoup plus pragmatique que ce qu'il pouvait faire avec Reims, mais on va voir ce qu'il va faire avec Auxerre, parce qu'ils ont des moyens Auxerre quand même. Hein.
S'il veut changer de dimension,
a dit qu'il allait être ambitieux.
Bah, ils font des recrues, ils ont des prêts sympas. À chaque fois, ils ont des joueurs intéressants.
Niveau recrues, c'était moyen la saison dernière.
Oui, c'était moyen, mais ils ont des idées et ils font. Est-ce que ça marche? C'est autre chose.
Juste un mot, me faites pas deux heures, hein, c'est pas la peine. Damien Comolli qui quitte déjà la Juventus. On rappelle qu'il avait quitté donc Toulouse
déjà
pour la Juventus. Et ben Zou, pareil.
Un autre Zou. Bah, voilà. Écoute, bonne chance à lui alors.
Il part de son rôle de directeur général d'un commun accord. Bon, ça, on sait ce que ça veut dire. Et dans la foulée, il y a Giovanni Carnevali qui a été nommé. De toute façon, c'était un échec. On est d'accord, Comolli à Juventus.
Ah bah là, voilà. La Juve l'année dernière.
Ça a été une catastrophe. Messieurs, nous restons aux États-Unis, mais on part au bout du monde. On part à San Antonio. On part chez les Spurs. On part dans le Texas.
Ok.
Avec Félix Gabory, qui est notre envoyé spécial aux États-Unis. Bonsoir Félix.
Hello Karine, hello tout le monde.
Félix, tu viens d'arriver à San Antonio, on rappelle, avant ce match 5 qui aura lieu donc demain dans la nuit de samedi à dimanche. Rendez-vous à 2h30 pour les Français. Dis-nous tout sur ce match qui arrive, parce qu'on rappelle que mes deux acolytes, là, Maxime et Walid, étaient au taquet lors de ce match complètement dingue. Au final, les Spurs ont été battus 107 à 106. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils avaient 29 points d'avance, hein, les Spurs. Et puis, ils ont complètement craqué. Les Knicks mènent. Et pourtant, malgré cette série terrible et ce 3-1 en faveur des Knicks, eh ben, on a l'impression qu'il y a énormément d'optimisme du côté des Spurs. Explique-nous ça.
Bah, c'est pas qu'une impression, c'est, on peut dire, un peu l'optimisme à l'américaine. Tu vois, Karine, nous, je pense qu'en France, que ce soit les supporters ou les médias, s'il se passait ça pour une équipe française, on serait déjà tous en train de critiquer, de tirer à boulet rouge sur ce qui s'est passé par rapport à ce match 4 où les Spurs, voilà, qu'on qualifierait même, je pense, en France d'erreur professionnelle quand tu vois de perdre ce match-là de 29 points. Mais ici, justement, l'optimisme à l'américaine et de tous les supporters qu'on peut croiser ici, c'est de se dire que les Spurs vont le faire. Les Spurs vont faire cette remontée fantastique, gagner 3 matchs de suite et aller être champion NBA. Quelque chose qui a été fait qu'une seule fois dans toute l'histoire des finales NBA, être mené 3-1 et gagner derrière, c'est arrivé qu'une seule fois, c'était Cleveland et LeBron James en 2016. Sinon, absolument personne ne l'a fait. Mais ça n'empêche pas qu'ici, dans le Texas, vraiment, moi, je me suis baladé dans la rue et j'ai croisé absolument personne qui m'a dit qu'il ne croyait pas aux Spurs. Tous les fans me disaient ça va le faire, on y croit, il n'y a aucun problème pour les Spurs. Notamment, on peut en écouter un là que j'ai croisé en centre-ville tout à l'heure.
Quand on est un vrai supporter, ce n'est pas parce qu'on est mené que tout est fini. Ce n'est pas terminé, il y a 7 matchs. Je pense qu'ils ont énormément progressé depuis la saison dernière, donc il n'est pas trop tard.
Et voilà, ce qui est dit cette supportrice, ça résume vraiment tout ce que m'ont dit tous les fans ici, de l'optimisme, et il n'y a pas de problème, Karine, ça va le faire pour les Spurs. On est mené 3-1, mais il n'y a pas de problème.
Alors on rappelle que les Spurs pouvaient recoller à 2-2 lors de ce match complètement dingue. Finalement, ils se sont écroulés, ils ont perdu 3-1. Messieurs, vous avez regardé le match, hein. Vous étiez à New York, l'ambiance était complètement folle. On rappelle en plus que les Knicks n'ont plus été sacrés depuis 73. Est-ce que vous y croyez aussi? Est-ce que vous êtes dans la Wemby folie?
Ah là, on est en Jacques Monclar, là, c'est sur les 5 dernières minutes, on y va, on analyse le match.
Non, c'est juste que toi, tu as vécu ce match.
Il a surtout vu la fin, Walid, je pense que le Jack Flag...
Moi, le problème, c'est que j'ai vu les 3 cartons.
Le premier carton.
Je suis rentré à l'hôtel, on a vu le troisième carton avec Jimmy Brown.
Ah ouais, okay.
Mais après, le quatrième, moi j'ai vu plus 15. J'ai vu plus 15, je me suis dit, c'est bon, c'est fait. C'est money in the bank, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et là, je me réveille, je vois les messages. Historique, incroyable, mais c'est le plus grand carton de tous les temps, etc. Tu sais bien, ici, on en fait toujours des caisses.
À l'américaine,
à l'américaine. Donc, ouais, j'ai pas suivi ce quatrième carton, mais j'ai quand même l'impression, même s'il y a de l'optimisme. Du côté des Spurs, que là tu prends un gros coup derrière la carafe quand même, parce que là il y avait deux partout avec le match 5 à domicile. Là c'est pas la même limonade, là c'est pas la même mayonnaise quand même,
Maxime. Donc,
ouais.
Ouais, toi, tu n'as pas dormi.
Non, moi, j'étais jusqu'au bout. Alors, sache que
non, pas
du tout. Arrête de me faire passer pour qui je suis pas. Non, pas du tout. Par contre, ce qui est vrai, c'est que.
C'est un clubiste.
un clubiste.
Il aime beaucoup les clubs.
Les clubs sandwich. Les clubs de sport surtout.
Exactement. Les clubs de poker aussi, il aime beaucoup.
Je suis moyen. J'attends des conseils de Daniel.
Club de golf.
On a suivi, on en a beaucoup là. J'ai suivi en effet ce match avec beaucoup d'attention parce que sache que pour tuer le jet lag, je dors pas la première nuit. Et ça fonctionne très bien parce que la deuxième nuit je dors donc énormément.
Et toi tu dors pas non plus la deuxième nuit, pour le jet lag, ni la troisième,
c'est très très compliqué pour faire
le mois entier en fait, le mois entier globalement. Tu sais que lui en fait sur la première journée, je sais pas si on a le temps de le raconter,
il
rentre quand même à 5h du matin et je le vois moi donc à 7h, je suis au petit déj,
6h30,
voilà. Il termine son footing
12 km/h.
Un être étrange.
50 minutes.
Ouais, un être très étrange.
Un ancien sportif.
Logiquement, logiquement, le jet lag, tu dois le gérer parce que tu passes ta vie à faire des allers-retours.
Mais écoute, à croire que je vieillis, que j'ai de plus en plus de mal à le gérer. Mais parce que c'est le plus important, c'est la question. On a eu la chance de le suivre. C'était historique. Voilà, malheureusement, Walid n'a pas pu le suivre avec nous parce que le jet lag, lui, l'a eu.
Ouais.
Mais j'ai bon espoir que sur le prochain match.
C'est quand le prochain match? C'est demain?
Je vous l'ai dit, c'est dans la nuit de samedi à dimanche.
Celui de New York. Parce que Walid, j'espère cette fois-ci que tu viendras avec nous jusqu'à la fin du match.
Oui, tu penses qu'il va y avoir une remontada de dingue?
Je pense que San Antonio va gagner chez eux.
3-2, 4-2, ça fait
c'est fort possible.
Okay.
Voilà. Félix,
ouais.
Nous sommes avec Félix, on rappelle Gabory qui est arrivé aux États-Unis. Tu es là où tout va se passer pour les Spurs. Est-ce que Wemby, parce que nous on est forcément un petit peu partisans, enfin ceux qui aiment le basket avec Wemby, est-ce que Wemby il y croit aussi parce que toi tu l'as rencontré?
Ouais, ben on l'a vu tout à l'heure. Il y avait un point presse qui était organisé là en veille de match dans la salle des Spurs. D'ailleurs, il y a un engouement médiatique qui est colossal par rapport même au final de conférence, le tour d'avant où moi j'étais déjà là contre OKC qui était le champion en titre. Là, on est x5, x6 pour ces finales NBA par rapport au nombre de journalistes accrédités. Il y a vraiment une effervescence dingue. Et du coup, on a demandé à Victor Wembanyama pourquoi lui il y croyait encore et les raisons qui faisaient que le vestiaire des Spurs était confiant, et il nous a répondu en français.
La capacité avant tout, le fait d'avoir prouvé match après match que c'est personne nous bat, c'est nous qui nous battons nous-mêmes en quelque sorte. Donc voilà, c'est en fait la confiance vient du fait qu'on sait qu'on a notre destin entre les mains.
Donc voilà, Victor Wembanyama, il pointe cette capacité et cette aptitude des Spurs à s'auto-saboter un petit peu dans tous les matchs qu'il y a eu dans cette série pour l'instant. Il y a une stat, Karine et messieurs, qui est quand même assez intéressante, c'est que sur toutes les minutes qui se sont écoulées sur les 4 premiers matchs de ces finales NBA, les Spurs, ils ont mené au score 70% du temps. Et pourtant, ils ont gagné qu'un match sur 4. Donc ça fait quand même des raisons d'y croire. Les Spurs, ils ont montré qu'ils étaient capables de dominer cette équipe des Knicks. Maintenant, il faut juste le faire sur toute la durée d'un match et réussir un petit peu à tuer les rencontres, justement.
Ah bah, terrible. Merci beaucoup, Félix, d'avoir été avec nous parce qu'on est aux États-Unis. On vous fait vivre tous les grands moments sportifs aux US avec donc ce match qui est très attendu. Ça sera dans la nuit de samedi à dimanche. Rendez-vous à 2h30 pour les Français et les Spurs qui doivent absolument gagner pour continuer à espérer. Sinon, ça sera donc un premier sac pour les Knicks. Ils attendent ça depuis 1973. C'est dire si ça fait longtemps pour le club adoré de Timothée Chalamet, messieurs, bien sûr. Vous savez.
C'est ton chouchou, lui ?
Non, je le connais pas.
D'accord. Voilà. En fait, toi, dès que tu connais pas les gens, tu.
Mais non, mais j'ai pas d'avis, oui, j'ai d'accord. Jamais même vu un film avec lui, tu vois.
D'accord, ok. T'as jamais, oui. Et donc, pourquoi tu le cites comme ça ?
Mais parce que j'ai l'impression qu'on ne voit que lui au premier rang, et vu qu'on sait que c'est un fan de foot, parce qu'il adore Saint-Etienne
bien
aussi.
Bien évidemment.
C'est pour faire un petit, tu vois, okay. Enchaînement.
Toi, t'es très star, t'es très people.
Bah, écoute, bah là, on est aux États-Unis.
Non, mais globalement, au global, t'aimes.
Non.
Non ? C'est qui aujourd'hui pour toi top 3 stars comme ça américaines? Top 3 stars qui te vient à l'esprit comme ça?
Brad Pitt
c'est un. Ouais. En deux.
Alors là le problème c'est que je vais être perturbé parce que je l'ai eu sous les yeux.
Ouais
là.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Si là je pense à Tom Cruise.
Tu penses à Tom Cruise tout de voilà. Suite, ok, ouais, d'accord, ok,
Brad Pitt. Tu
Tom
dois Cruise. Me mettre Beyoncé là-dedans.
Ouais, Beyoncé, Rihanna.
Ah dois. Non, mais j'aurais pas pensé.
Ah bon. Ouais.
Mais j'adorais voir Rihanna en Elvis. Concert, mais elle fait jamais de concert.
D'accord.
Voilà.
Mais t'es plus Beyoncé ou Rihanna?
Alors j'ai vu deux fois Beyoncé en concert et c'était génial.
Génial.
Et j'attends toujours Rihanna. Donc
Stade de France, ça fait?
Bien sûr.
Ah oui.
Avec
d'accord.
Jay-Z.
Ah, avec Jay-Z, ok.
Voilà.
D'accord.
Fabuleux, okay. Tu y étais aussi peut-être?
Non, non, pas du tout.
Non.
Moi, je suis plus français, moi. Rap français.
Ah d'accord, ouais, mais c'est bien. Ouais. Et votre top 3 là, alors?
De quoi? De quoi?
Bah, des stars américaines.
Ah, les fins d'émission sont fun, en tout cas. Ouais, non, du côté
oui, top 3 stars américaines.
Oui.
Ouais, pour moi, DiCaprio. DiCaprio.
Ouais.
DiCaprio comme ça, non? T'aimes pas?
Il m'agace.
Ah, il t'agace, pourquoi?
Il fait trop la star, tu vois. Quand il vient à Saint-Tropez, c'est on a l'impression que le monde s'arrête.
En fait, tout tourne autour de Saint-Tropez.
Oh, okay,
ben non, mais excuse-moi, mais ça, je veux dire, quand le mec il arrive au restaurant, il passe par les poubelles pour pas être
vu. Il paye DiCaprio?
Ben, j'espère bien, oui.
Ouais. Il envoie de la bouteille?
Je l'ai pas vu envoyer des bouteilles, mais je vois tout le tralala pour aller au restaurant, je trouve ça tout match.
C'est qui le mec qui t'a le plus choqué comme ça à Saint-Tropez?
Je crois que c'est DiCaprio.
Quoi, par rapport aux bouteilles ou par rapport
mais
à.
Non,
à
parce que je te dis. Il allait dans un des restaurants les plus connus de Saint-Tropez. D'accord. Où il y a que des stars, où il y a que des gens qui pèsent des milliards. Donc, Leonardo DiCaprio ou pas Leonardo DiCaprio,
c'est
pas on en a
d'argent,
rien à faire.
Il a juste envie d'éviter un peu les fans, peut-être.
Mais personne vient l'embêter. Ah, mais
il a envie d'éviter Karine Galli qui va lui dire la photo, etc. Ah ouais?
Mais non, mais attends, si tu.
Tu demandes la photo à qui à Saint-Tropez, toi?
Mais je demande la photo à personne.
S'il y a une star à qui tu.
Tu as dit Tom Cruise, Brad Pitt.
Le seul que j'ai voulu rencontrer, c'était Chris Waddle, tu le sais bien.
Ah ok. Et
tu l'as jamais vu?
Bah bien sûr, je l'ai rencontré à la Coupe du Monde 2018.
Oui d'accord, mais c'est pas à Saint-Tropez que tu vas le rencontrer, Chris.
Bah non, je l'ai rencontré à la Coupe du Monde 2018
encore la coupe
en Angleterre. Non, il était très sympa en plus.
Ah
non,
mais tu peux être sympa avec
toi, Chris Waddle, c'est ton idole.
Ah, je voulais rencontrer Chris Waddle, absolument. D'accord. J'ai fait des pieds et des mains pour le rencontrer et échanger avec lui.
Oh, c'est tout. Bon. Et alors, il était comment? C'est comment?
Il était très sympa.
Décevante la
pas du
rencontre,
tout.
Non?
Exceptionnel. Il était adorable. Il a fait semblant de comprendre mon anglais.
Vous avez parlé
ouais.
On a parlé quelques minutes. Il a été.
Il savait qui il était?
Non.
Non. Tu lui as dit French anime, French non. Host, French Host TV.
Alors bien sûr, bah ça bien sûr, parce que je lui ai dit que j'étais là pour la Coupe du Monde, ouais. Et je lui ai surtout raconté toutes les étapes où je l'ai raté, parce que tu vois, à l'Euro 2016, ouais. J'étais au même match que lui, je suis pas arrivé à le voir, le match d'après il est malade, il vient
alors,
pas.
Comment tu l'as vu, comment tu l'as rencontré, comment t'as réussi?
Grâce à son binôme.
Qui t'a fait la passe?
Qui est?
Son binôme.
C'est
Oli, il s'appelle.
Oli.
Mais on connaît pas le nom de famille.
Oli Foster.
Oli Foster. Et comment tu l'as? Comment tu l'as découvert, Oli Foster?
La première fois, je suis au match et je vois Oli aux côtés de Waddle.
Et là, t'attrapes Oli Foster, tu te dis, attends, si j'ai Oli Foster, j'ai Chris Waddle.
Exactement. Voilà, donc, et Oli a été exceptionnel, très smart, et donc après, il a organisé la rencontre.
Et Big Flo était où, Big Flo? Big Flo était où?
Je sais même pas à quoi il ressemble.
Non, parce que Big Flo est.
Oui, j'ai compris, mais je l'ai pas là.
D'accord, okay, très bien.
Je connais même pas la tête physiquement.
On est un peu fatigué là, non?
Voilà. Donc, Chris Waddle.
Chris Waddle. Très bien. Voilà. Okay. Mais sinon, les stars, people, etc., il n'y en a pas un qui te fait.
Pas du tout.
Ah, d'accord, ok. Non. Très bien. Okay.
Bravo, Karine.
Merci pour ces 5 minutes.
C'était une histoire intéressante. Je ne sais pas si ça intéressait tout le monde.
On a envie de te connaître un peu plus quand même.
Le problème, c'est de toute façon, vu qu'il y a 1200 personnes sur YouTube, est-ce que.
Ah, il y a 1200 personnes sur YouTube là?
Oui, je crois.
Mais qui sont ces gens?
Qui sont ces gens qui écoutent surtout les histoires de Oli Foster?
Qui sont ces
vous? Vous m'avez pas dit vos stars à vous.
Ah, moi, je t'ai dit. Ah, moi, les stars quoi? C'est-à-dire les stars planétaires comme ça?
Je sais pas, celle où tu bloquerais. Ah oui, là où j'ai eu un choc, mais je n'ai pas demandé de photo, je m'en fous, quand j'ai vu Michael Jordan et Magic Johnson.
Ah oui. Ah ouais, okay.
Magic Johnson, c'était le président de mon club, voilà. Donc je le voyais.
Moi, franchement, j'ai aucune star qui me fait un truc. Tiens, à part Zizou.
Ah, même la grande star du paddle, non, ça te.
Non,
ça
rien, du pas, tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Vraiment, vraiment. Ouais. Aujourd'hui, il y a que Maxime Chanot qui me.
Tu vois comme
dans les rues des. Donc, des
Michael Jordan, quand tu le vois, t'es pas un peu.
Moi, je suis pas basket de dingue, etc.
Non, mais même. Tu sais quoi, moi, pourquoi j'ai été scotché? Parce qu'en fait, sa tête, elle était au-dessus.
Oui, il est grand, quoi. C'est un basketteur, quoi.
Non, mais sa tête, elle était au-dessus des.
Grand writer, Jordan.
Eh ben oui,
très vraiment. Très grand writer.
Oui, oui, oui.
Vous êtes bien renseigné sur ceux qui sortent. Hein.
Ah bah, il a fait des nuits fantastiques au vieux Pirou à l'époque.
Il ne voulait pas trop faire de nuit actuellement quand t'es connu. Hein.
C'était
très bon enfant et bienveillant.
Voilà.
Exactement. Et donc, on peut faire la fête tranquillement.
Avec modération.
Avec modération.
Et donc, quand tu vois, comment on dit, tu sais, quand il y a des.
Des strapontins? Des quoi?
Non, mais par exemple.
Parce que là, il faut savoir, pour ceux qui sont sur YouTube, elle est en mime. Elle est en mime depuis tout à l'heure. Des rideaux.
Genre, il y avait une tente, mais c'est pas vraiment le mot. Ouais. Et en fait, sa tête, elle était au-dessus.
D'accord. Donc, il
s'est fait grand.
Ah, ok, d'accord. Mais quel était l'endroit, en fait?
À Saint-Tropez, je l'ai croisé aussi.
À Saint-Tropez, d'accord.
Camping des Flots Bleus.
C'était quoi? C'était une cabine d'essayage? C'était quoi?
Non, mais quand tu déambules dans les rues.
Voilà, on va peut-être.
On va terminer avec
le là, j'ai l'impression
que c'est mon quatrième but. Ah, je suis désolé de vous parler de foot, mais là il est très joli ce but de Giovanni Reina à la 98e minute de jeu. L'ancien joueur du Borussia Dortmund entré en jeu il y a quelques instants, sa vie à l'entrée de la surface côté droit. Il s'infiltre, la frappe extérieure du droit dans le petit filet et l'entrée elle est parfaite pour l'Amérique.
C'est un bijou.
Ah, il est magnifique.
Oh, j'aime bien ce joueur.
Le joueur de Mönchengladbach, l'extérieur du droit, franchement sublime. En plus, Orlando Gil, le gardien, est masqué. Ouais. Et donc, entre celui de Balogun et celui-là, les supporters du Sophie Stadium auront vu de superbes réalisations.
Si avec ça, ils sont pas dans le train là. On peut rien y faire. Hein. Ah, c'est qu'ils aiment pas le foot.
Monter en flèche.
Ah, c'est qu'ils aiment pas le foot. Hein.
Le premier étage de la fusée, c'était Maxime Chanot. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée.
C'est incroyable.
Et d'ailleurs, Giovanni Reina, avec qui j'ai joué.
Et les Russell Crowe, comment il est content.
Et Gio Reina, avec qui j'ai joué, cet extérieur du pied, c'est un petit peu. Il y a un petit pourcentage, Maxime Chanot.
Bien sûr, évidemment.
Tu penses qu'il l'a appris où?
Année
2017, 2018.
Exactement.
Et voilà. Donc, Wally, viens avec moi jouer demain matin.
Par contre, j'aimerais bien faire
Et c'est terminé.
Ouais. Magnifique.
C'est terminé 4-1 pour les États-Unis. Doublé de Balogun, but donc de Reina et Bobadilla avait marqué contre son camp. Et c'est Mauricio qui avait réduit l'écart pour le Paraguay. Les États-Unis sont en tête de leur poule.
Merci beaucoup Valentin Jamin de nous avoir fait vivre ce match carton pour les États-Unis 4-1.
On fait pas une petite chronique people dans la matinale.
Tu peux nous faire un dernier petit mot si tu veux, bien sûr.
J'aimerais bien faire une petite chronique.
Ce qui m'énerve, c'est que vous trouvez pas le mot dont je veux parler. Si. Vous savez, mais quand tu te balades, par exemple, il y a des devantures et il y a, tu sais, il y a un toit, par exemple.
Un hangar.
Mais non. Ouais, bon, en tout cas, la tête de Michael Jordan, okay, elle dépassait, donc c'était vraiment impressionnant.
Ah, d'accord, elle dépassait le toit de la boîte.
Ouais. Non. Oh,
je sais pas, c'est pas grave, on va réussir.
C'était en extérieur. En extérieur. Dis, parfois, tu mets des tentures juste pour protéger du soleil, tu vois.
Boîte d'accord. intérieure ou boîte extérieure?
Un parasol.
Mais non. Là, c'était à Saint-Tropez, oui, c'était dans la rue.
Oui, mais toi,
ça paraît très clair, là, ce que tu es en train de mimer.
T'es sur des soirées extérieures ou des soirées intérieures?
Soirées intérieures.
Ouais.
Cave du Roi, meilleure boîte du monde, okay, à Saint-Tropez.
Okay.
Et avant, il y avait évidemment une boîte de nuit magnifique.
Ah, pourquoi tu montes du nom, je ne la connais pas.
Bah oui, parce que t'es un peu corse. Mais elle a fermé.
Parce qu'elle t'avait vu. Elle t'avait vu.
Non, pas du tout. Mais elle a fermé.
Ouais, voilà, la Cabulco.
Pas du tout.
La Vianote.
La Vianote, voilà. Mais elle a fermé.
Et c'est extérieur, ça?
Extérieur, d'accord, fabuleux, okay, bien sûr. Okay. Mais ça
et là, t'avais pas chaud comme à New York.
J'avais pas chaud comme à New York, voilà, c'était parfait. Voilà, okay. Mais ça a fermé, voilà.
D'accord.
Écoutez, je pense qu'on a fait une grande émission.
Très grande émission.
Les 5 dernières minutes, culture générale, sympa.
Ah, mais oui, oui. Les 5 dernières minutes de Karine. Le temps additionnel. Le Karine Time.
Et voilà.
On a eu le Fergie Time, et là, on a le Karine Time.
Voilà. Et je pense que demain, on se retrouve sur RMC,
ah ouais,
bien évidemment.
Super.
Ça continue, évidemment. Troisième journée de compétition. Vous savez qu'RMC vous fait vivre ce mondial absolument exceptionnel. RMC Radio Officielle, on embrasse Maxime
bien
à
sûr.
Bolin.
Merci Maxime, heureusement que tu es là.
Ouais, et
Maxime, voilà, mon avis tranché, t'inquiète pas, on le fera cette semaine.
Mais d'ici le 19 juillet, on fera ton avis tranché.
Voilà, exactement.
On a le temps. De toute façon, c'est des joueurs qui sont toujours dans la compétition.
Exactement.
Merci Wallis, merci Maxime, merci à tous, évidemment, d'avoir passé un bout de la nuit avec nous. Et nous, on va aller faire dodo. Bonne nuit à tous.
RMC Coupe du Monde 2026.